troisième congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous, et une fois n'est pas coutume, nous sommes à l'heure, oui, c'est le Cannabis Circus du 12 mars 2018, et donc on va vous parler de chanvre, de cannabis, de brève, de ce qui se passe un petit peu de ci, de là, dans nos juridictions. On verra deux, trois articles sur... cette contraventionnalisation qui avance plus ou moins avec quelqu'un qui nous fait un édito là-dessus en disant que Macron est à contresens. Contresens de l'histoire, sans doute. D'autres essayent de miser sur la légalisation, on reviendra là-dessus. On viendra aussi sur la première entreprise cannabique qui rentre à la bourse et qui rend fou la bourse de Wall Street avec 20% d'augmentation très dans les premiers jours. On reviendra aussi avec Mediapart sur l'affaire d'Aulnay et du jeune Théo et de tout ce qu'on peut dire là-dessus. Et enfin... un article qui revient sur cette contraventionnalisation encore pour dire non à cette contraventionnalisation en expliquant pourquoi. Quelque chose qui vient d'un...
D'une ex-lieutenant de police. C'est un blog, en fait, qui est tenu par Bénédicte Desforges.
D'accord. Voilà,
qui est donc une ex-lieutenant de police et qui, là, donne plus qu'un avis, mais c'est une analyse... En fait, technique, même assez technique, en fait, du pourquoi, du comment, la contraventionnalisation, ça va pas marcher, selon elle. Et elle a quand même pas mal d'arguments.
Et oui, avec des choses.
C'est rare, quand même, de voir. Elle est ex-lieutenant de police, hein, elle l'est plus. Mais en tout cas, voilà, cette analyse est assez intéressante. Et du coup, alors c'est peut-être pour ça qu'elle n'est plus lieutenant de police, que c'est une ex. Mais on a l'impression, c'est pas qu'une impression, que c'est une ancienne policière anti-prohibitionniste. Ce qui arrive quand même, à mon avis, il y a des tas de policiers qui sont anti-prohibitionnistes, mais qui ne s'expriment pas.
Et puis il y a aussi des ex-premiers ministres ou des ex-ministres de l'intérieur qui deviennent pour la légalisation, comme Daniel Vaillant, voilà, d'autres, des anciens présidents aussi, des anciens qui deviennent, mais jamais les gens en activité.
Comme c'est bizarre.
Sont cours, c'est vraiment dommage. Les gens, l'intelligence, on dit qu'on dirait qu'il leur vient quand ils quittent leur fonction.
On a bien vu Jean-Marie Le Guen, hein, qui était anti-prohibitionniste, fervent même, et puis quand il est entré au gouvernement, alors lui, il a pas fait. Il n'a pas changé d'avis, hein, il a juste refusé de s'exprimer à ce sujet, ou en tout cas il n'a pas voulu aller dans ce sens-là une fois qu'il est devenu ministre. Mais il n'a pas été ministre bien longtemps. Voilà. Mais on n'entend plus parler de lui pour le moment en tout cas. Voilà,
donc avant de vous passer un petit peu de musique, on va parler un petit peu de deux, trois petites brèves qui se sont déroulées par là.
Ces petites brèves, hein, on en parle de temps en temps, c'est les faits divers cannabiques ou autrement dit les conséquences de la guerre à la drogue et de la guerre aux usagers du cannabis qui de temps en temps se font attraper et finissent devant les tribunaux. Et là, il y en a quand même quelques-uns, quelques-unes. Hein, donc trois articles. Trois articles, et puis un autre tout petit, alors c'est pas par rapport à des arrestations, mais c'est plus par rapport à ce qui s'est passé à Tahiti, hein, la semaine dernière. On va quand même d'abord commencer par
Par des brèves de la dépêche.
Voilà, donc ça se passe en Aveyron. Ça voilà. Se passe au tribunal de grande instance de Rodez, pour le premier article. Hein.
Voilà, avec des gens de différents calibres, et donc, pour commencer, un sexagénaire d'Aubin, qui est à la barre du tribunal, qui a la voix un petit peu chevrotante.
Ouais, un sexagénaire.
Et qui explique qu'il fait pousser du cannabis pour venir en aide à sa femme, qui a des douleurs partout, qui a perdu l'usage des genoux, et qui, en plus, doit s'occuper de petits qui est handicapé. Elle dit il dit qu'il préfère faire pousser plutôt que d'enrichir les narcotrafics ou les terroristes, évidemment. Et il explique qu'avec la marijuana, donc, sa femme se trouve mieux et qu'elle est accro à l'usage de la beuh, à l'inverse d'autres, qu'elle n'est pas accro à l'usage de la beuh, à l'inverse d'autres produits médicamenteux de substitution. Alors évidemment, le procureur réplique ah voilà, je ne m'attendais à pas avoir ce discours sur l'usage thérapeutique des stupéfiants, il y aurait beaucoup à dire. C'est d'ailleurs très encadré, ouais, tellement encadré que c'est impossible d'y avoir accès. Voilà, donc, mais le sexagénaire ne se démonte pas. Il explique que, voilà, quelque part, c'est un acte citoyen. Ça évite d'aller voir les narcotrafiquants. Ce qui me motive, c'est d'avoir un produit bio de qualité. Comme ça, je suis sûr de ce que je prends. Voilà, ça fait un peu sourire. Après, il y a une autre personne.
Ça fait pas sourire le procureur.
Ça fait pas sourire le procureur. Voilà, donc il y a deux trois personnes qui expliquent un petit peu les choses. L'autre, il dit c'est facile de nous mettre des coups de bâton. J'ai eu mal, très mal. J'ai une hépatite C. C'est pas possible si j'ai pas plus ma beuh. Je suis un rastadingue, j'écoute du reggae, je suis tranquille avec mes produits. Je sais que j'ai outrepassé la loi, mais ce sera récurrent toute ma vie. Je suis ici devant vous pour sauver ma famille. Je vais être overhead avec vous, monsieur le président, si je suis renseigné pour acheter de la marijuana en Suisse.
Je me suis renseigné.
Oui, bah, entre autres avec l'herbe au CBD. Voilà, donc pour lui, ça sera... le procureur requiert un an de prison ferme. Mais le tribunal ne le suit pas et lui ne met que 100 heures de travail d'intérêt général.
À effectuer en 18 mois et sans être rémunéré. Bah oui, forcément, c'est des travaux d'intérêt général. Donc, bon. Ensuite, dans ce même tribunal, un autre cas, un individu, M. H, qui porte bien son nom. Je ne sais pas si c'est bien fait exprès par des journalistes, mais bon, bref. Donc, M. H qui arrive avec les menottes, qui était en détention pour une autre affaire. Et là, il y a eu une perquisition suite à un cambriolage. On a retrouvé chez ce monsieur des cartes bancaires, des travelers tchèques, mais aussi 503 grammes de résine de cannabis, une balance et une liste de noms. Alors lui, il dit que c'est un individu qui est venu chez lui, qui a posé un sac contenant de la drogue. Bon, ça n'a pas convaincu grand monde. Il avait déjà 22 condamnations sur son casier et il est condamné à 8 mois de prison ferme. Voilà, donc pour ces deux cas l'Aveyron. Sinon, après, on va dans l'Aude. Ça se passe à Carcassonne. Là, c'est l'indépendant.fr qui nous relate... les faits d'un homme qui se fait appeler dans l'article Stéphane, qui a reçu chez lui la visite de la police parce qu'il y avait des pieds de cannabis sur son balcon.
Voilà, et évidemment, ils sont venus sur dénonciation.
Voilà, alors on lui fait bien sûr la morale, hein, comme toujours. Hein. Je pense que c'est d'ailleurs un truc qu'il faut absolument arriver à intégrer, c'est qu'on a affaire à des magistrats qui sont quand même assez peu informés et renseignés sur toutes ces affaires toutes ces histoires de cannabis, de CBD, de THC, bref. Et on leur fait la morale, donc la juge dit à ce monsieur, mais vous êtes conscient que c'est interdit quand même Alors lui, il dit, bah, c'est quand même un bon anti-cancer. Bon, mauvaise réponse, hein, parce que là, le tribunal lui dit, mais vous êtes malade? Bah, il dit, bah non, pas pour l'instant.
Pour l'instant, ça va.
Bon, en plus, c'est un monsieur qui avait déjà été interpellé à plusieurs reprises entre 2002 et 2016, suite pour diverses infractions. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, oui, c'était l'avocat, en fait. Parce que bon, le début n'est pas forcément hyper intéressant, mais la plaidoirie de l'avocat a quand même un certain intérêt. Donc l'avocat dit que on est face à une législation en matière de stupéfiants qui évolue en tendant à transformer ce type de peine sous forme d'amende. Dans quelques temps, dit l'avocat, vous ne serez peut-être plus amené à vous pencher ce genre de dossier, en s'adressant au magistrat. Il dit autre chose d'intéressant. Il dit que si son client était complètement addict aux stupéfiants, hein, c'est ce que suppose le parquet, eh bien l'avocat dit à juste titre, hein, s'il avait été vraiment complètement addict aux stupéfiants, les multiples contrôles routiers qu'il a subis auraient détecté cette réalité, ce qui n'est pas le cas, et donc l'avocat n'hésite pas à demander une simple amende et demande à la cour, au tribunal, de faire abstraction du casier judiciaire du prévenu. Et alors, en plus, à la fin, j'aime bien la fin quand même, le monsieur, là, Stéphane, donc sincèrement dépité, s'adresse au tribunal. Oui, sincèrement dépité, parce que...
Il a pris 2 mois avec sursis.
Il a pris 2 mois avec sursis, assorti d'un sursis de mise à l'épreuve d'une durée de 2 ans quand même, et une obligation de travail. Et donc, alors c'est là que c'est vraiment... Mais, hallucinant, parce que pour le coup, bon, on se dit, il a un casier, machin, bon, il va pas s'en sortir. On arrive presque à comprendre, mais finalement, le monsieur dit dépité, mais enfin, c'était un pied mâle, en plus, que j'avais sur mon balcon. Un pied mâle. Et il se prend quand même une certaine peine, on va dire, pour un pied mâle sur son balcon. C'est quand même vraiment incroyable. Donc, le tribunal de
plus,
dire.
C'était un pied mâle. La graine, elle était venue avec les petits oiseaux, hein. Parce que c'est pas lui qui l'avait planté, lui il fait planter des tomates et là il y a un pied.
Ça trompe personne, mais si c'est vraiment un pied mâle, je veux dire, c'est cher payé pour un pied mâle, quoi. En tout cas, le tribunal de lui répondre, mais monsieur, vous êtes pas content, vous avez qu'à faire appel du jugement. Voilà, bon, bref, en tout cas, voilà ce qui se passe dans les tribunaux pour des histoires de cannabis. Encore une fois, on souhaite quand même en parler un petit peu pour que tous et toutes on se rende bien compte que bon, on vit toujours dans ce genre de pays.
Que c'est pas dépénalisé, qu'il y a toujours des affaires tous les jours et des gens qui tombent.
Voilà. Enfin, dernier article qui se passe dans les Pyrénées, c'est la République des Pyrénées. Ça se passe pas très loin de Pau, si je comprends bien. Là, c'est la police qui se rend chez des individus qui font pousser pas mal dans leur garage. Hein, et donc, les policiers qui se rendent là-bas sur place sont attirés. Enfin, quelqu'un a dû en sentir quelque chose et appeler la police.
Hein. Ouais, d'ailleurs, c'est assez marrant tel que le journaliste tourne les choses. Alerté par une forte odeur de cannabis qui émane d'un garage donnant sur une rue de la Billière, la police opère une descente à l'adresse indiquée.
Indiqué par quelqu'un qui a dû sentir avant eux, je pense.
Voilà, c'était ça que je voulais bien souligner.
Voilà. Donc.
C'est cette contradiction totale entre le flair des flics et grâce à la dénonciation de nos braves citoyens, nos braves compatriotes.
Voilà, et donc effectivement, peut-être l'odeur peut s'entendre à partir du moment où la police récupère 13 kilos de tête d'herbe de cannabis qui pousse dans le garage, donc 13 kilos d'herbe pas sèche, hein, parce que
ouais,
sinon...
avec les pieds sans doute, et avec les peaux sans
et
doute.
Voilà, donc au final ça ferait certainement pas 13 kilos. Enfin bon, beaucoup de... pas mal, enfin le matos en fait, hein, lampes, système d'arrosage, ventilateur, etc. Les deux locataires donc disent que ça les a dépassés, qu'il y avait 40 pieds de cannabis qui envahissent les lieux. Voilà, donc c'est qui ces deux locataires? Deux jeunes trentenaires. On a retrouvé également chez eux 200 grammes de résine de cannabis, 330 euros en petite coupure sur la table du salon, des traces de poudre blanche repérées sur une balance électronique. Et donc voilà, ils disent, on a été dépassés par les événements. Même les policiers n'avaient jamais vu de cannabis pousser comme ça. Et l'odeur elle-même leur a échappé. Et donc il y en a un qui dit, même le filtre à charbon que nous avions installé ne pouvait rien faire. C'est sûr que si on met un tout petit filtre et qu'on a des dizaines et des dizaines de pièces, ça va pas le faire non plus, oui, c'est possible.
Si on change pas le filtre.
Voilà, si en plus on change pas le filtre. Oui. Donc ils se défendent, eux, d'avoir voulu fabriquer pour vendre. Hein. Ce ne sont pas des trafiquants, mais des gros consommateurs. L'un d'eux confesse que leur consommation varie de 15 à 20 joints par jour. Et ils disent comme ça, on voulait être tranquille pendant 2 ans, se faire une petite réserve et s'arrêter là. Ils avaient d'abord tenté une petite culture un an plus tôt, dans une chambre du pavillon où ils habitaient, mais la reproduction récoltée, mal conservée, avait moisi. Voilà. Ils se sont alors perfectionnés, ils ont investi 3 500 € dans du bon matos, et ils envisageaient de conserver leur récolte dans des sachets sous vide. Alors, le plus âgé a seulement, entre guillemets, hein, 3 mentions plutôt anciennes à son casier judiciaire, le second, qui était alors ouvrier dans l'aéronautique et primo-délinquant. L'avocate des prévenus dit qu'ils n'avaient pas conscience de leur dépendance totale. C'est un peu maladroit.
C'est la deuxième fois, et ça m'énerve, ces avocats qui plaident de la dépendance. Quoi. Faut arrêter les conneries. Hein.
Oui, mais
ils font chier ces avocats à la con. Quoi.
Ils essayent de ramener les choses sur un volet sanitaire. C'est ce qui est prévu dans la loi de 70, normalement. Ça marche pas forcément, certes, mais il vaut mieux avoir un suivi socio-sanitaire qu'être poursuivi pénalement. Oui, donc, bon, c'est énervant quand on est militant, mais bon, voilà, au niveau de la loi, ça peut se comprendre. En tout cas, ces deux individus apparemment auraient cessé toute consommation. L'autre avocate fait valoir la réinsertion sociale et professionnelle du plus âgé depuis les faits, notamment la perquisition. Le parquet considère que la perquisition pose quand même question sur l'existence d'un possible trafic, mais considérant qu'il n'est pas réellement important, elle requiert quand même des peines de 10 mois et 1 an de prison avec sursis et mise à l'épreuve, obligation de travail et de soins, et décision le 5 avril. Donc on reviendra peut-être sur cette situation de ces deux individus. Voilà, enfin bon, en tout cas, ils s'en sortent ni bien ni mal, hein. Je sais pas comment on peut dire, mais bon. Voilà. Ensuite, pour terminer cette petite intro fait divers, on va maintenant traverser l'océan Pacifique et on va aller à Tahiti. Voilà. Pourquoi ? Parce que nos camarades cannabinophiles du THC, du Tahiti Herb Culture, avaient dernièrement, c'était le 2 mars dernier, donc ont eu la bonne idée d'ouvrir un smoke shop. Mais ça n'a pas du tout plu aux forces de l'ordre, qui sont donc intervenus, qui ont fait fermer l'officine, et d'ailleurs ils ont une fermeture on va dire administrative et préfectorale même là-bas. Il se passe ça pour ces militants là, mais en plus de ça, il se trouve que je lis dans l'article, hein, le Conseil des ministres ce mercredi a interdit l'importation des graines de cannabis. Alors ça, c'est quand même quelque chose, parce que du coup, ça serait une discrimination. C'est-à-dire que on a le droit en France d'importer, même de vendre des graines de cannabis à partir du moment où on ne les fait pas pousser. Mais là-bas, à Tahiti, c'est interdit. Donc je trouve ça quand même surprenant. Voilà. Ensuite, c'est la mairie donc de Papeete qui porte le coup de grâce à cette boutique controversée qui importait des graines de cannabis pour les collectionneurs. Ben oui, mais c'est légal. Et donc, selon le secrétaire général de la mairie, monsieur Rémi Briand, le gérant du smoke shop, je cite, n'a pas fait le nécessaire pour obtenir les autorisations de l'urbanisme, et il a ouvert son commerce donc sans avoir rempli le dossier. Oh, quelle abomination. Un dossier, nous dit-on, obligatoire lorsque l'on aménage des locaux pour créer un nouveau commerce.
Et donc, c'était encore quelqu'un qui avait la phobie administrative.
Enfin, en tout cas, c'est l'argument qui est utilisé pour leur opposer qu'on ne peut pas continuer ce genre de magasin. Et donc l'arrêté sera signifié à la boutique, a été signifié à la boutique qui a donc été fermée la semaine dernière. Enfin, il y a même 15 jours, parce que c'était début mars. Voilà, donc, en tout cas, si vous allez à PAPET, et ben là-bas, vous ne trouverez pas d'herbes de cannabis, de graines de cannabis, même si vous souhaitez les collectionner, donc les regarder sans les faire pousser, ceci est interdit. Donc voilà, revenez donc sur le continent. Parce qu'ici, vous pouvez les acheter, mais pas les faire pousser. Bon, bref. Allez, voilà.
Mais là-bas, on peut les faire pousser sans les acheter, quoi.
Bah, il y en a qui s'en chargent, apparemment.
Allez, un petit peu
tout de suite, un peu de musique.
Monte la sève. Elle s'élève, s'entraide jusqu'à mes lèvres. Elle m'élève les sens, l'esprit là. Elle m'enlève l'inhibition qui colle à mes semelles de plomb. De plomb. Comme le maçon à sa truelle. Les bretons ont de l'hydromel. Les éboueurs ont leur poubelle. Les gros fachos ont leur pucelle. Tel apiculteur qui fait son miel, prends bien soin d'elle car elle est si belle. Pas d'artificiel, non, elle est naturelle. Même si t'es sécar, tu n'auras pas de séquelles. Everybody come, everybody follow me. Everybody come au pays magique de la Saint-Cie. Everybody come, everybody follow me. Everybody come, allez vas-y, roule ton cul, c'est parti. Eh bien parti dans la partie. Oui c'est parti. Eh bien parti dans la partie. Tous les fêtards qui font des pétards dans les couloirs de tous les bars ont quelquefois bien des déboires. Alors ils cherchent dans leur mémoire, dans quelle armoire, dans quel placard, ces petites boulettes de noir, ces tapis dans le noir. Ouais je sais pourquoi ils sont toujours en retard. C'est qu'ils veulent que chaque instant soit un hectare. Un hectare ou deux, ou trois hectares de deux, sur une colline à Montolieu, ça serait-il pas merveilleux?
Yes, I... Everybody come, everybody follow me. Everybody come au pays magique de la Saint-Cie. Everybody come, everybody follow me. Everybody come, allez vas-y, où sont tous qui c'est parti. Et bien parti dans la partie. Oui c'est parti. Et bien parti dans la partie.
Passe-moi des gueufs, stuff, je vais me déchirer, faire la teuf. Putain, des keufs. Ah puis merde, j'en ai rien à preuve, ça fait 20 piges. Tu piges, que tu nourris ma parano. Les copéages, j'en nage, m'empresse de planquer mon bédo. Persévérer par les bleus, feriez fou pour un joint de faux. La police, comment suisse nous lâche un peu sur le cannabis. Avec des cellières, tu pauvre repère, comme t'as chaud, on va se le faire. Je vais pailler pour une petite mèche, dispense-moi ta morale à deux balles. Ouais, je sais, c'est illégal, comme l'absinthe ou la fraude fiscale. Les crétins, qu'est-ce que tu crois? Qu'on a deux kills dans la grosse caisse ou quoi? Quand Yannick Noah, nous on pratique le mine d'or. Une vraie mine d'or. Tous les ans, nous descendons la palme du pétard.
Everybody come, everybody follow me. Everybody come au pays magique de la Saint-Cie. Everybody come, everybody follow me. Everybody come, allez vas-y, roule-toi, qu'est-ce qui s'est passé. Et bien parti dans la partie. Oui, c'est parti. Et bien parti dans la partie.
Pas de bière, pas de shit, non sing to eat. Tu te dépites deep dans ton gîte. Alors quitte ton site, quick vite, avant que tout ne périclite. Au risque de te confronter à tes limites.
Car limite c'est miettes et tout c'est frites. Quand l'alcool rattrape le shit, shit. Faut pas en parler maman, shit, shit. Il faut le rouler, le shit, shit. Faut pas en parler.
Poil dans la main et les yeux couleur bœuf. Avec nous les dealers font leur beurre en moins de deux.
Et oui, donc on vient de s'écouter Las Patatas Espandas et ça s'appelle le shit. Chut.
Espantadas.
Le shit. Chut.
Le shit chut.
Chut. Le shit. Non, shit. Le shit. Le shit chut.
Oui, oui, oui.
Donc, un édito dans Libération pour continuer. qui est écrit par Jonathan Boucher Petersen.
Oui, que je n'avais jamais vu son nom avant, je ne connais pas.
Emmanuel Macron à contresens sur la question du cannabis. Voilà, ce qu'on présente comme une évolution vertueuse n'est en fait ni disruptif, ni même pragmatif. Bref, banalement conservateur. Voilà, donc on s'oriente a priori vers une contravention délictuelle pour le consommateur. Donc pour le journaliste, le chef de l'État passe à côté des enjeux sur ce sujet qui n'a rien de mineur. En matière de santé publique et de prévention, dans un pays où 17 millions de personnes ont déjà expérimenté la résine ou de l'herbe, 1,4 million d'usagers réguliers, dont la moitié fument au quotidien, selon l'OFDT. Donc ceci est sans doute des chiffres vraiment à minima. souvent, on parle quand même de plusieurs millions de consommateurs réguliers, c'est-à-dire une fois par semaine ou par mois. Donc là, on est à 4, voire 7 millions. Et avec sans doute des fumeurs quotidiens qui dépassent le million. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. La deuxième chose pour laquelle le chef de l'État passe à côté du sujet avec cette contraventionnalisation, c'est en matière de lutte contre l'insécurité et contre la criminalité inhérente au trafic. Voilà, et le journaliste de rappeler que des règlements de compte endeuillent régulièrement des familles en région parisienne, marseillaise, grenobloise, et on pourrait rajouter bordelaise, lyonnaise.
Dans plein d'endroits.
Ouais. Et plein d'endroits divers et variés. Le shit system est une nuisance quotidienne pour de nombreux citoyens.
Le shit system ?
Le shit-stem.
Le shit system, pas le shit system. Bref.
Le système, voilà. Et c'est, en fait, c'est un jeu de mots, si vous comprenez bien, ou oui, si vous écoutez bien notre prononciation, c'est shit, c'est d'un côté shit et mélangé au mot système, donc c'est shit système.
Ouais, je pense que tout le monde a compris. Hein.
Bien, si tu le dis.
Ouais, je pense quand même.
Bref, en tout cas, la France avec cette contraventionnalisation reste arc-boutée sur le maintien de l'interdit moral. Le monde bouge partout, outre-Atlantique en particulier. On rappelle que 30 États ont légalisé l'usage récréatif aux États-Unis, et même une dizaine, et quelques-uns, pardon, ça doit être 6 ou 7, le cannabis récréatif. Voilà, donc...
6 ou 7 États, hein, ouais, c'est ça que tu disais.
Oui.
Oui, ok, non, c'était pas très clair.
Voilà, donc chez nous, la loi de 1970 et plus largement la parole publique apparaissent de plus en plus décalées par rapport au réel, alors que les tenants du statu quo de la prohibition dénoncent l'idéologie laxiste du camp d'en face. L'enjeu est pourtant bien d'élaborer des politiques publiques efficaces. Voilà, dans un contexte où l'échec de la guerre contre la drogue, ici comme ailleurs, est patent... voilà, on ne change rien en France. Voilà, à la clé, avec une légalisation, on pourrait avoir 700 à 1 milliard de dollars de recettes fiscales, jackpot, et sans compter le nombre de créations d'emplois et une baisse de la criminalité telle qu'on le voit en Californie. Voilà, il faut éclairer le débat. Donc, tout ce qui s'apparente à une dépénalisation et la contraventionnalisation s'inscrit dans ce processus n'est qu'une demi-mesure qui peut certes changer le quotidien des consommateurs, mais sans remettre en cause les conditions illégales de la culture ou de vente du cannabis. La seule option raisonnable est la légalisation encadrée. C'est le fort peu gauchiste think tank Terra Nova qui l'avait d'ailleurs écrit dans son rapport en 2016.
En octobre 2016, ouais. Et qui est justement appelé à la création d'une instance de régulation en ligne sur le même modèle que celui qui a été créé pour superviser les jeux en ligne. Voilà. Donc l'objectif affiché par les rédacteurs du rapport Terra Nova, bah, c'était justement d'essayer d'assécher le marché criminel d'un côté, de prendre en compte un problème de santé publique de l'autre. Voilà.
Voilà, et c'est pour ça qu'ils demandent la légalisation encadrée. Voilà, il rappelle aussi que Jean-Marie Le Ken, loin d'être dans la culture 68arde, a plaidé pour des mécanismes de légalisation contrôlés, mais surtout des politiques d'éducation et de santé publique, au nom d'une approche sanitaire, alors que la prohibition n'amène pas la diminution de la consommation. Voilà, et on y rappelle aussi que Benoît Hamon a été aussi pour la légalisation contrôlée, un pragmatisme inaudible dans un contexte où l'idéologie a changé de camp. Voilà, voilà, donc bah, le pour lui, ce qui est positif, c'est que ben, avant, on était pour une idéologie prohibitionniste, et petit à petit, la légalisation prend le dessus et commence, d'ailleurs, on le voit dans les sondages, à basculer légèrement au-dessus de 50%. Bon, les politiques sont encore très rétifs, mais sans doute que ça devrait avancer. Pas tout de suite, mais... Voilà. Autre chose à ajouter par rapport à cet édito ?
Non, c'est suffisant, on va dire.
Donc, deuxième article qui vient de Vice.com.
Vice.com,
si tu veux.
Bah, c'est mieux que Vice. Hein.
C'est français qui mise déjà sur la légalisation de la weed. Start-upers, politiques ou philosophes, ils ont tout prévu. Coffee shop dans les cités, agences de pub spécialisées, taux de TVA. Voilà, donc c'est un article de Pierre Longeret. Voilà, comme il semble bien loin le temps où le militant pro-légalisation se résumait à un rasta blanc originaire de Rennes, accompagné de son fidèle djembé, et toujours prêt à répondre à l'appel du 18 juin.
Je sais pas où il a vu ça, lui, ce mec qui écrit l'article, mais bon... Il n'a pas dû croiser beaucoup d'anti-prohibitionnistes dans sa vie. Hein. Ou de ceux qui croient qu'il l'était, hein, franchement... Bon, bref, c'est pas un peu caricatural comme entrée en matière, mais bon.
Voilà, donc le profil des gens pour la légalisation a muté en France. Ils ont bien compris qu'ils devaient délaisser le champ de l'hédonisme pour investir celui du réel. Exit le plaisir, place au business.
Encore une fois, une vision très caricaturale du militantisme.
Tout à fait. Donc, pour preuve, l'association Chambre et Liberté a changé de nom pour s'appeler Normal. Les usagers d'aujourd'hui ne se retrouvaient plus dans ce branding qui jouait sur les stéréotypes libertaires, hippies et marginaux. Il était important de changer cette image.
Alors, juste pour une petite parenthèse, pour rappeler à ce monsieur que quand même le cirque est suivi par 30 000 personnes sur Facebook. Donc c'est quand même pas rien, hein, voilà.
Bah, que des hippies, des libertaires et des marginaux.
Je pense pas, mais bon.
Voilà, donc qu'est-ce qu'il dit après, bon, c'est Normal, donc Normal est une association américaine, hein, qui essaye de faire des petits partout. C'est vrai qu'elle est arrivée en France aussi. Donc, chez Normal, on sait que le packaging sémantique est primordial. Du coup, on ne parle plus de légalisation, qui fait peur. On a tendance à penser que c'est open bar, mais on parle de régulation. Ça revient à peu près au même, mais c'est plus soft. Le combat mondial donc pour Caspar Koenig, qui est philosophe à tendance libérale. Donc pour lui, le combat mondial est clairement en passe d'être gagné. Voilà, sauf peut-être en France. On voit bien que c'est un processus inéluctable. Voilà, quand la Californie s'y est mise, on a senti que c'était plié. Donc en France, la question n'est plus de savoir si on va légaliser, mais quand cette légalisation aura lieu.
Quand et comment ? Autre question, voilà. Que je rajoute là. Hein.
Oui, oui.
Bah, l'aspect comment, il arrive un peu plus tard. Hein, mais...
Tout à fait, tout à fait.
Enfin, en tout cas, ou dans l'article suivant.
Bref, qu'est-ce qu'on peut dire aussi encore là-dessus, c'est que il faudrait s'y mettre rapidement.
Oui, parce que
c'est Laure Bougen qui dit ça, cette jeune entrepreneuse bretonne qui explique que c'est qui dont les grands-parents cultivaient du chanvre a lancé en 2015 sa marque de cosmétiques Au Caran, dont les produits contiennent de l'huile de cannabis et bientôt du CBD. En France, on est déjà passé à côté de la vague Internet et on risque de passer à côté de celle du cannabis.
Voilà.
Donc si on s'y met pas, les États-Unis, eux, vont le faire pour nous. Et du coup, pour éviter de se retrouver avec de la weed américaine bourrée d'OGM, il faudrait faire évoluer la législation. Je vais faire une parenthèse là parce que de la weed américaine bourrée aux OGM, c'est à peu près n'importe quoi, mais voilà.
On
peut dire que la weed américaine bourrée aux pesticides, aux insecticides et gorgée de mince, comment on dit, phosphate et tout ça, d'engrais.
Ah, d'engrais, oui.
Voilà, pas forcément très bon, mais par contre, sans doute, pour que ça fasse des bons plans.
Mais
les États-Unis ne sont pas connus pour leur qualité sanitaire des produits qu'ils vendent.
Voilà, je ne sais pas pourquoi tu dis que de la beuh bourrée aux OGM, on ne sait pas, ça peut tout à fait arriver. Tu as vu l'article suivant, avec toutes ces boîtes là qui maintenant sont cotées en bourse, t'inquiète pas que... Il y en aura forcément quelques-unes qui commercialiseront des variétés aux OGM. C'est tout à fait envisageable. Mais si elles ne sont pas bourrées d'OGM, comme tu dis, et qu'effectivement elles sont pleines de pesticides ou d'engrais chimiques, oui, c'est pas génial non plus, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein.
Oui, mais pour l'instant, moi, je sais pas. Ça fait déjà il y a une dizaine d'années, on nous parlait déjà des trucs aux OGM,
vrai,
pour nous parler des herbes un peu fortes. Voilà, c'est juste des croisements, des mélanges de plantes comme on a fait.
De l'hybridation qui ne sont pas des manipulations génétiques. Je suis bien de ton avis.
Tel que ça a déjà été, c'est des manipulations génétiques naturelles. Ce n'est pas on va chercher un bout d'ADN qu'on va refoutre dans l'autre chose, quoi. On va pas essayer de mettre, peut-être qu'ils vont faire aussi des bouts de cannabis qui va résister au Roundup pour qu'on puisse le faire pousser avec du Roundup tout autour. Ça doit être bon à fumer ça. Oh là là, quelle horreur. Ça me donne mal à la tête rien que d'y penser. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est, pour reprendre un peu ce que dit Madame Bouken, c'est on doit démontrer par A plus B que c'est un business rentable et qui crée de l'emploi. Là-dessus, je pense qu'elle a totalement raison. Voilà, il y aura différentes choses. Il y aura les auxiliary business.
Les auxiliary business.
Donc, ce qui ne touche pas directement la plante de cannabis, mais tout ce qui est autour, c'est-à-dire le matériel de culture, les médias en ligne, les agences de marketing spécialisées, les voyages à thème, etc. Et aussi le chanvre industriel, une variété de cannabis qui ne contient moins de 0,2% de THC. Voilà, c'est une manière de faire du cannabis sans entrer dans la complexité réglementaire liée à la présence de THC. Je sais pas si c'est elle qui dit quelques bêtises ou si c'est Pierre Longeret qui travestit un peu ses propos, mais tout ça est un petit peu bizarre. Sinon, dans tout ce labyrinthe, l'article parle aussi de deux personnes, donc Eric Correa,
oui, dont on a déjà parlé il y a à peu près un mois, qui est conseiller régional de la Creuse, qui a proposé de faire de son département un laboratoire de cannabis médical pour relancer l'activité dans son territoire, dans la Creuse, qui est un département en crise. Voilà. Alors l'affaire, elle est sérieuse.
L'autre personne qui met en exergue, c'est Éric Piolle, dont on a aussi parlé, qui est maire EELV de Grenoble. Qui est connu comme une plaque tournante de la drogue en France. Je ne savais pas que Grenoble était une plaque tournante de la drogue en France, mais bon, je l'apprends. En tout cas, il y a à Grenoble de la drogue comme partout en France, ça c'est sûr. Bref, en tout cas, il veut légaliser parce que la prohibition et en tout cas la vente de cannabis gangrène les quartiers populaires et pourrit la vie des habitants. Voilà. Sinon, pour finir, il rappelle que chez Normal France, on propose par exemple de s'inspirer des Cannabis Social Club ou bien d'imaginer des serres municipales dans les quartiers stigmatisés pour créer de nouveaux emplois, récupérer des taxes et financer des actions de santé publique ou sociale. Voilà, dans la même ligne, Gaspard Koenig regarde aussi du côté de la Californie et qui donne des micro-licences aux personnes qui avaient été condamnées pour une infraction liée au cannabis. C'était quelque chose qu'on avait applaudi et dont on a aussi parlé dans cette émission. Et en tout cas, quand il transpose ce système en France, il pense qu'on pourrait faire des petits dealers, des vendeurs assermentés soumis à la TVA.
Un peu comme ce que font les villes d'Oakland en Californie ou d'autres villes de Californie et de l'Oregon par exemple.
Voilà, bon, reste que au niveau des autorités françaises, la parésie reste totale, le blocage est donc surtout institutionnel. Et institutionnel, décrypte toujours Monsieur Koenig. Voilà, en tout cas, que tout dans les pays où la législation a évolué, cela s'est fait par un référendum à l'initiative populaire. Une donnée importante car la France reste le pays d'Europe où l'on fume le plus du cannabis. Les 5 millions de fumeurs de weed tricolore seront-ils autant de militants potentiels? C'est une question que je me pose depuis 30 ans.
On aimerait bien.
Bah, il y a eu une époque, ça reste que des militants potentiels.
Ouais, mais il y a eu une époque, il y avait des vrais militants parmi les potentiels, mais bon, ils ont un peu disparu aujourd'hui. Voilà, donc allez, petite pause musicale et on revient tout de suite après.
Juste les deux petites brèves suivantes, je te dirais.
Ah bon, bah ok, excusez-moi, alors donc pas de pause musicale tout de suite.
Juste pour... parce qu'après on a deux grands articles qui vont nous prendre du temps, donc autant se faire ces petites brèves très rapides. Quand le cannabis rend fou Wall Street, ça vient du Nouvel Obs. Donc c'est les courtiers de Wall Street qui ont accueilli avec entrain l'arrivée cette semaine sur le marché officiel du Nasdaq de la première entreprise uniquement spécialisée dans le cannabis, la canadienne Cronos. Voilà, donc très rapidement, le titre de Cronos a bondi de 20% depuis son entrée. Voilà, donc c'est cette société qui cultive et distribue du cannabis thérapeutique et récréatif sur quatre continents. Voilà, pouvait déjà être échangé à la bourse de Toronto ainsi que de gré à gré à New York sous la forme d'American Depository Receipt, soit ADR, bref. Voilà, donc c'est juste pour dire que la bourse en tout cas n'est pas frileuse à voir arriver des entreprises cannabiques et de faire des affaires avec.
Ça pose problème quand même. Franchement,
C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il faut mieux qu'on arrive à trouver un système un petit peu vertueux pour éviter d'avoir les mêmes soucis qu'avec le tabac, c'est-à-dire des gros multinationales qui veulent qui ne voient qu'une seule chose, c'est l'appât du gain et non pas la santé des consommateurs. Et donc qui ne cherchent ni à faire des produits sains, ni à faire de la réelle prévention.
Voilà. Mais je suis très inquiet. Je pense que malheureusement, nous n'y échapperons pas.
Et il y a de grandes chances que ça soit comme ça que la légalisation se fasse, c'est-à-dire
n'importe
à la méthode
comment,
américaine,
quoi.
C'est-à-dire de la plus mauvaise méthode.
Ceci dit, aux États-Unis, pour l'instant, le marché il est encore tenu par des pionniers. Hein. Ils vont certainement se faire racheter et se faire manger dans les prochaines années, mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt des amateurs de cannabis qui tiennent le business, notamment au Colorado par exemple, ou même en Californie. Mais bon, quand on voit toutes ces boîtes là, Afria, Canopy Growth Corp, Aurora Cannabis, ça...
Moi quand j'ai vu au Colorado, quand je vois leur magasin, c'est vrai que c'est souvent de l'hydro, donc on peut se dire que les engrais sont minéraux et ne sont pas trop nocifs.
Aussi en Europe.
Comment ?
Ça existe aussi ici, en Europe.
Oui, ça existe aussi ici. Voilà, on peut se dire, mais voilà, c'est pas gagné. Moi, j'aimerais bien savoir être sûr de ce qu'ils mettent en engrais ou ce qu'ils en mettent pas, savoir comment ils traitent leurs herbes, est-ce qu'il y a des pesticides ou pas, est-ce qu'il y a des antifongiques aussi ou pas. Voilà, c'est beaucoup de questions que je me pose. Il faudrait aller voir, faudrait faire une enquête sérieuse pour savoir quelle est l'utilisation, parce que il faut rappeler que quand même. Le chanvre est une plante qui bioaccumule, et si on lui donne
des saloperies
sur n'importe quoi,
elle emmagasine
n'importe quoi. Voilà. Et pour finir avant la musique, on va faire un petit souvenir à Hervé Merliac.
Que peut-être tu as connu, parce que moi je ne le connaissais pas.
Je l'ai peut-être croisé, je ne me dis rien comme ça, mais...
Voilà, bon, malheureusement, Hervé Merliac est disparu il y a peu de temps, c'était fin février. C'est un photo-reporter canactiviste qui a participé à nos premiers événements, nos premières manifestations, qui a pris d'innombrables clichés des Toxipride de Paris et Marseille, l'opération Pétard aux députés en 97, en passant par les multiples appels du 18 juin au parc de la Villette et les premières Cannabis Cup aux Pays-Bas. Donc Hervé promenait ainsi son objectif, fixant ses instants sans que jamais nous n'appréhendions les éventuelles conséquences de ces mémorables flagrants délits, nous jouant des autorités des persécutions policières. Le cirque souhaite apporter tout son soutien à sa famille ainsi qu'à ses proches. Puisses-tu donc reposer en paix, camarade. Et si parmi nos auditeurs et auditrices, il y en a qui s'intéressent aux clichés qu'a pu prendre Hervé, eh bien ils sont visibles sur son site web https://hervémerliac.com/hervémerliac. Hervé avec un H, bien sûr, hervémerliac.photoshelter.com. Un album posthume est également visible sur la page Facebook de la Fédération des Cirques. Voilà. Petit hommage donc rendu à Hervé. Allez, musique et à tout de suite.
Marihuana, tuvo un hijito y le pusieron San Espidito como el abogado de los
Bah oui. Oui, c'était nous. On vient de s'écouter.
C'était nous. Comment ça, c'était nous?
Oui, quoi, c'était nous. C'était Cannabis Circus. Et donc, on vient s'écouter Flor del Fango, la marijuana.
Voilà. Donc, c'était pas nous qui chantions. Hein. Ouais. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps. On va maintenant s'intéresser à. On va pas le lire en entier, hein, bien entendu, parce que c'est un article qui est quand même assez long, mais qui est super intéressant et que du coup, bah, on vous renvoie à la page Facebook de la Fédération des Cirques où vous pourrez trouver cet article en intégralité. C'est un article de Mediapart intitulé « Un policier d'Aulnay-sous-Bois dénonce les dérives de ses collègues ». Et les collègues, c'est qui? Eh bien, c'est des policiers qui ont interpellé particulièrement violemment, interpellé et violé, hein, Théo. Qui s'était retrouvé hospitalisé par la suite. Donc ce policier qui en fait a eu envie de se confier à des journalistes et de leur expliquer un peu l'ambiance dans le commissariat et d'expliquer aussi en fait que en fait ces policiers qui ont procédé à l'interpellation de Théo, visiblement c'est toujours un peu les mêmes qui sont sur les coups, ça doit se bagarrer. Du coup, il dit, hein, ils aiment se battre, casser des gens. C'était toujours les premiers à se ruer dans les cellules lorsqu'un gardé à vue pétait un plomb ou se rebellait. L'un d'eux, un brigadier, était particulièrement violent. Je l'ai vu avoir des gestes déplacés au poste, menacer des hommes menottés au banc et leur dire « toi, on va t'éclater » à chaque fois que des jeunes se plaignaient. C'était cette équipe-là. Donc, je pense qu'il en a eu ras-le-bol et il a eu envie
de parler aux Mediapart.
Voilà, aux journalistes de Mediapart. Alors, pourquoi est-ce qu'on a sélectionné cet article? Eh bien, parce que, en fait, cette brigade et une partie de ces policiers, alors qui interviennent pas que à Aulnay-sous-Bois, mais dans d'autres commissariats de la région parisienne, dont certains font partie de brigade particulière, enfin spécialisée comme celle-ci là, la brigade spécialisée de terrain. Eh bien, ces policiers interviennent, travaillent en fait avec en toile de fond, enfin plutôt en tâche de fond, la lutte contre la consommation et le trafic de cannabis. Voilà.
Je vais faire juste une parenthèse, qui est quand même une
parenthèse. Vas-y.
Une petite polémique actuellement. Puisque, voilà, viol, pas viol, parce qu'a priori,
ah oui,
la matraque...
Il n'y a pas eu.
La matraque n'est pas totalement vraiment rentrée dans l'anus, mais n'empêche que juste à côté de l'anus, ça a été déchiré sur 10 cm.
Oui.
Donc, ce n'est pas à proprement parler un viol, parce qu'ils ont fait presque un autre trou à côté de l'anus. Voilà, c'est très très subtil, hein. Mais n'empêche que l'avocat des policiers... se sert de ce prétexte pour dire qu'il n'y a pas eu bavure et que il faut que Théo s'excuse. Là-dessus,
de ça te fait faire un deuxième trou au cul en fait. Hein.
Voilà. Et donc là-dessus, l'avocat de Théo a dit qu'il en était hors de question qu'il s'excuse et qu'il espérait bien qu'au procès il aurait des excuses de la police. Je pense qu'il rêve aussi, mais voilà. En tout cas, c'est quand même là-dedans. On est vraiment toujours dans la polémique avec des rapports, des contradictoires et voilà, et des subtilités sémantiques, parce que c'est vraiment de ça dont on parle. Parce que même si viol ou pas viol, quoi, le geste était
d'une rare violence.
Il était à connotation sexuelle. Et
ça a l'air, hein.
Et dans tous les cas, il est scandaleux et je rejoins entièrement le Serge, donc
le policier,
le policier
qui témoigne, c'est son nom, prénom d'emprunt,
qui dit que il faut que voilà, si le viol est avéré, il faut qu'il prenne 20 ans ferme, que les jeunes n'aient pas l'impression que les policiers bénéficient de passe-droit, qu'on puisse repartir dans la rue et faire notre métier sereinement, dit Serge. Voilà, et je pense que il a raison, et c'est un peu le coup de gueule qui pousse à 2-3 moments. Voilà, parce que
En fait, ce qu'on comprend, c'est que lui, il en a marre de travailler avec des gens comme ça parmi ses collègues, Et il aimerait bien, si je comprends bien, faire son travail de policier correctement, sans que, quand ils patrouillent, on les traite de violeurs, hein, c'est ce qu'il dit. Hein.
Voilà, tout à fait.
Parce que, bon, bah, ça a rejailli un peu sur tout, tous les habitants du quartier. Il dit comme ça que la police, l'image de la police est durablement ternie. Ah, c'est... oui, c'est lui qui dit ça. Mm-hmm. Donc,
voilà. Donc après, il explique. Bon, il y a déjà cette équipe qui était un petit peu violente et qui dès qu'ils étaient dans la rue, se croyaient les caïds et se croyaient tout perdu,
tout permis. Permis.
D'autant plus qu'a priori, t'étais plus ou moins soutenu par. Par le commissaire du coin qui comment il s'appelle le Vink je sais pas s'il donne son nom
le Vink oui effectivement ouais.
Voilà qui est un ancien boxeur et qui a pas peur d'aller avec ses hommes faire le coup de poing quand il faut. Voilà, qui soutient pas mal ses flics. A priori, il y aurait déjà eu des petits cas dans le même style. Alors, quoi, dans le même style oui, avec cette violence, je dirais plus ou moins sexuelle. Donc, c'était il parle d'un délit, d'un chauffard qui avait donc renversé des policiers et blessé l'un d'eux. Et donc, après l'avoir arrêté, il lui avait mis
Tu t'es perdu là, moi-même, je n'arrive pas à t'aider, je suis désolé.
Oui, c'est le truc qu'il y a sur les roues, un enjoliveur dans le derrière.
Voilà,
oui, effectivement. Voilà, et donc là-dessus, il a été un peu réprimandé, mais ça n'empêche pas qu'il a toujours son poste. Il a changé d'affectation, et donc c'est lui qui est rentré là-dedans. Donc il a créé plein de choses, donc avec deux types. Donc il y avait les BAC, il a créé aussi des BST. Et voilà, et donc qui met les deux brigades en concurrence tout le temps pour avoir du chiffre sans avoir des choses correctes.
Alors juste, moi je voudrais quand même lire la phrase, parce que c'est quand même assez incroyable. Voilà, il y a 13 ans, la brigade anticriminalité de nuit, la BAC-N de Paris, dérape. Rattrapé à l'issue d'une course-poursuite durant laquelle il avait renversé deux policiers et blessé un troisième, un chauffard est extrait de l'habitacle de son véhicule et tabassé. Il finit sur le goudron, pantalon et slip baissés, un cerceau d'enjoliveur entre les fesses. Alors, certes, ce chauffard ne devait absolument pas renverser des policiers, on est bien d'accord. Hein. Après, est-ce que c'est vraiment digne de la police d'une république comme la France que de procéder à ce genre d'acte, quoi, de tabasser le chauffard, de lui baisser son pantalon et son slip et de lui mettre un cerceau d'enjoliveur entre les fesses, franchement.
Non, ce type de sévice n'est pas digne.
C'est quand même assez incroyable, quoi. Donc voilà, ça se passe, ça se passe ici, ça se passe en France.
Voilà, donc c'est juste pour donner un petit peu le contexte et la puissance de ce commissaire qui protège ses hommes, à tort et à raison, plutôt à tort qu'à raison d'ailleurs. Et Serge qui rappelle que sur 10 gardes à vue quotidiennes, 7 ont pour l'objet de trafic de drogue, 2 des conduites sous l'empire d'état alcoolique et la dernière pour diverses délits. Et surtout, c'est que les jeunes se plaignent qu'on vienne les taper sur leur point de deal, des patrouilles effectuent des contrôles d'identité et promettent de ne pas revenir de la journée. Ils iront plutôt embêter le four concurrent si on leur file 100 ou 200 euros. Certains collègues se feraient même rémunérer en barrette de shit. Il y a 4 ans, je n'entendais jamais parler de ça, mais là, ça devient énormément. Voilà, donc.
Alors, ça.
A priori. Et il dit bien que ce n'est pas le commissaire qui permet ça, mais sa façon de soutenir les hommes donne une condition ou donne des conditions dans le service qui peuvent permettre ce genre de choses. Voilà, c'est très subtil la façon dont il amène ça, et il rappelle que c'est déjà arrivé avec le système des ripoux de la BAC Nord de Marseille.
Alors, des policiers qui... enfin, de la corruption dans la police ou des policiers qui subtilisent du cannabis, enfin qui saisissent du cannabis ou qui en exigent ou qui le... Enfin bref, ça c'est un truc au cirque qu'on en entend depuis parler depuis des années et des années. Hein. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais bon, là au moins c'est un policier qui le dit, quoi.
Voilà. Après, que des policiers, quand ils arrêtent quelqu'un avec une barrette de shit, ils la confisquent pour eux-mêmes et laissent l'interpeller repartir. Ça, on en a beaucoup entendu parler. Moi, j'ai beaucoup moins entendu les dealers parler de cette rémunération directe. Pour ouais, la bonne raison que je ne côtoie pas assez.
Oui, d'accord. Oui. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, des affaires de raquettes directement. Directement auprès des vendeurs, quoi, en fait, hein. Ou même carrément de l'extorsion de fonds, je sais pas comment on peut dire, enfin du racket de marchandises ou d'argent, voilà.
Voilà, bah, des ripoux au sens propre du terme.
Voilà, effectivement, oui, comme tu dis, le fait qu'ils soient soutenus par la hiérarchie, bah, ça leur donne. Ils se sentent pousser des ailes et ils se sentent dans l'impunité. Et à partir du moment où, en plus, bon, ils rackettent des dealers, hein, donc forcément, voilà, c'est assez effrayant. Oh, bah,
c'est juste une contraventionnalisation avant la date.
Hein. Oui. Si on veut. Bon.
Voilà, bah, on va peut-être pas parler du dernier article du...
Alors, non, on essaiera d'en parler quand même la semaine prochaine, parce oui, que je trouve cet article, en fait, qui se trouve sur... un blog, je vais vous donner l'adresse http://police.etc.over-du6blog.net. Non à la contravention pour usage de drogue. Donc je vous redis de qui cela émane. Donc d'une ex-lieutenant de police, Madame Bénédicte Desforges. Je donne son identité, hein, parce que c'est public, hein, elle le donne sur ce blog. Donc un article absolument très intéressant. En fait, c'est voilà, une lieutenant de police, ex-lieutenant de police, qui connaît un peu la maison et comment ça marche, les interpellations et tout ça, et qui donne son avis sur comment ça va se passer, la contraventionnalisation.
Voilà, et puis voilà. Une grosse bêtise, une moralité de l'histoire, un rendez-vous manqué avec la raison. Voilà, elle rappelle le constat de l'inutilité de la répression de l'usage de drogue est unanime. Et bref, qu'il y a urgence à changer de politique. Voilà, et donc on reviendra là-dessus parce que c'est vrai que les arguments amenés sont très intéressants.
Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus ce soir, lundi 12 mars. On s'excuse pour la semaine dernière, on n'a pas été en mesure de faire l'émission, on est vraiment désolé. Mais la semaine prochaine, on devrait y arriver à nouveau, comme tous les lundis, de 21h à 22h, sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, 102.2 MHz. Et bien maintenant, c'est Chasseurs de Son, comme tous les lundis, après Cannabis Circus, c'est Chasseurs de Son, qui arrive en courant, ventre à terre. Il vous a ramené plein de sons dans sa besace. Voilà, maintenant on lui laisse la parole, le son, et on se dit à lundi prochain, 21h, pour un nouveau Cannabis Circus. Bonsoir.
Bonsoir, ciao à toutes, ciao à tous.